notamment aux questions sécuritaires en Afrique. En ligne de Dakar, en fait, nous attendons Babacar Nzaï. Il est spécialiste des conflits armés du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et dans notre studio de Washington, mon collègue de VOA Afrique, Bagassi Koura. Bagassi, je me tourne vers vous d'emblée. Le Burkina, vous le connaissez bien, c'est votre pays. À quoi sommes-nous en train d'assister ces deux dernières années? Le Burkina n'est-il donc plus à l'abri d'attaques terroristes?
Oui, malheureusement non, le Burkina n'est plus à l'abri d'attaques terroristes depuis janvier 2016 avec cette attaque en plein cœur de la capitale et cette énième attaque de dimanche. On compte plus de 60 victimes de ces attaques et plus d'une vingtaine d'attentats terroristes sur le territoire burkinabé. Un pays, Jacques, il faut le dire, qui n'avait pas connu autant d'attaques auparavant.
Effectivement, Bagassi. Alors, Souleymane Baldou, vous connaissez très bien le Mali. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons en parler dans la deuxième partie. Mais en voyant de telles attaques au Burkina, êtes-vous choqué outre mesure ou c'était plutôt dans la logique des choses, si je puis le dire ainsi?
C'est tout à fait dans la logique des choses. Oui. Je vous rappelle qu'au mois de mars dernier, le 2e mars, oui, il y a un nouveau groupe d'alliance qui a été formé de groupuscules djihadistes dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de groupes pour le soutien à l'islam et des musulmans, menés et chapeautés par M. Agali du Mali. Mais il comprend en son sein les Ansar al-Din, bien sûr, Akmi, disons, le Raïda dans le Maghreb musulman, et aussi le Massina, le Katiba du Massina, qui est parmi la population peuple de centre de Mali. C'est un groupement qui, disons, qui vise à déstabiliser toute la région sahélo-sahélienne avec une vision vraiment de profiter des faiblesses et de la fragilité des pays qui composent cette zone-là.
Oui, d'accord. Mais pensez-vous que c'est également parce que le Burkina abrite ou défend des intérêts occidentaux comme sur son territoire, comme d'autres pays, comme le Mali et certains pays voisins?
Le Burkina, il a un contingent de la MINUSMA, de l'opération de maintien de paix au Mali. Il a aussi, une participation d'origine dans les G5, le groupe des 5 pays du Sahel, qui se propose d'affronter le péril du terrorisme. Mais il faudra dire aussi, Jacques, oui, que le péril dans la zone de Sahel ne se limite pas tout simplement au djihadisme. Il y a dans cette zone toutes sortes de criminalité transfrontalière qui se traduit par le trafic, d'êtres humains, oui, par le trafic d'armes et surtout par le trafic de drogue, oui, tous vers l'Europe. Et donc, les groupes qui s'impliquent dans les activités transfrontalières économiques sont dans un chevauchement quotidien avec le groupe terroriste. Et le groupe terroriste cherche à financer leurs activités dites djihadistes à partir de ces activités criminelles. Et donc, ce n'est pas un péril qui se limite à un pays, mais c'est un péril qui confronte toute la région sahélo-sahélienne.
Oui, toute la région. Issa, le président Kabore a-t-il réagi aux critiques selon lesquelles les services de renseignement n'ont pas été efficaces, surtout après l'attentat du café Cappuccino il y a un an?
Le président Kabore a pris la chose dans sa globalité lors de son adresse après cet attentat de le lendemain matin. En réalité, il a appelé à la collaboration effective et forte entre les populations et les forces de sécurité. Parce que ce combat-là, comme il expliquait, c'est un combat en fait de renseignement. Et tant que nos renseignements ne seront pas au top, il sera véritablement difficile de pouvoir donc faire face avec efficacité à cet hydre qu'est le terrorisme. Mais il l'a pris dans sa globalité, en fait.
D'accord. Alors vous restez avec nous, je vous propose maintenant deux commentaires Facebook. Zoromé Chadara, Luanda, Angola, tout pays en Afrique qui a envoyé des soldats au Mali pour lutter contre les terroristes et un vrai ennemi des djihadistes. Et Soumaïla Lara Talma Bayiré, Ouagadougou, le Burkina est exposé au terrorisme comme tout autre pays dans le monde. Ce n'est pas une affaire de religion, car au Burkina, il y a la tolérance religieuse. L'attaque est simplement politique, car dans le temps, il y avait en quelque sorte un pacte de non-agression entre les autorités précédentes. Bagassi, justement, le Burkina tente toujours de se remettre des événements sanglants qui ont suivi la chute en 2014 de Blaise Compaoré. Mais vous savez, il y a certains pro-Compaoré qui disent que sous son régime, le Burkina était protégé. Beaucoup de points de vue à ce sujet sur notre page Facebook. Comment les Burkinabés réagissent-ils à de tels commentaires? Est-ce tout simplement une façon de critiquer l'actuel président?
Oui, c'est une opinion qui est assez répandue, hein, surtout ces derniers mois avec, comme je l'ai dit, il y a eu plus d'une vingtaine d'attaques sur le territoire burkinabé, plus de 60 victimes. Hein. Mais il faut dire qu'on ne peut pas l'attribuer à un régime, au régime Kabore en l'occurrence, parce que c'est vrai que quand Compaoré était là, il avait ses connexions avec les groupes djihadistes, ce qui permettait notamment de libérer certains des otages. Mais il faut dire qu'il y a un contexte qui est là, c'est la situation du terrorisme dans le Sahel, le pourrissement de la situation, notamment au nord Mali. Et vous savez que cette partie du Mali partage près de 1000 km avec le Burkina Faso, donc une zone difficile à contrôler. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, hein, le Burkina a un contingent au Mali et donc peut-être toutes ces attaques font partie des représailles. Il y a aussi le fait qu'il y a un nouveau groupe, Ansarul Islam, qui est né au nord du Burkina, le tout premier groupe terroriste totalement local. Et donc il y a tous ces effets, il y a un contexte qui est nouveau, qui n'a rien à voir avec Kabore, qui n'a rien à voir avec Compaoré, mais il y a tout un contexte sous-régional qui explique le pourrissement de cette situation-là.
Oui, Bagassi, vous n'êtes bien évidemment pas le porte-voix de Kabore, mais qu'a fait le président burkinabé depuis les dernières attaques? Quel est son plan de lutte contre le terrorisme? A-t-il un plan?
Ben, souvent la question revient, hein, parce qu'après l'attentat de l'année dernière, en 2016, on avait vu un renforcement des mesures de sécurité dans les grandes villes, mais aussi à l'extérieur des agglomérations. Mais ça n'a tenu que quelques mois et après on ne voyait plus ces fouilles, on ne voyait plus ces patrouilles qui avaient été mises en place. Tout a disparu petit à petit. Et les critiques se demandent un peu aujourd'hui si le gouvernement n'a pas baissé les gardes. Et ce qui revient le plus souvent aussi, c'est un manque de renseignements, parce que les gens se disent comment est-ce que ces terroristes qui ne sont pas de Ouagadougou arrivent à arriver à débarquer en plein centre de la capitale et à mener leurs actes sans que les services de renseignement aient pu avoir la moindre information. C'est un peu ces critiques-là. Et il faut savoir que lorsque Compaoré est parti, il y a eu quand même une certaine désorganisation au niveau des services de sécurité. Vous savez, le général Djendjéré avait commandé les renseignements et donc ce système, il fallait le reconstruire après Compaoré. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il est à point. Et il y a aussi ce coup d'État qui est intervenu en 2015, le coup d'État du général Djendjéré, avec toutes ces bisbilles qu'il y a eu entre les forces armées, qui, au lieu d'être concentrées à une nouvelle réforme, étaient peut-être un peu divisé à voir qui avait participé au coup et qui ne l'a pas fait. Et donc il y a surtout un travail de réforme de l'armée. Il y a eu un réaménagement, par exemple le RPC, oui, qui est une unité antiterroriste qui a été formée par les Américains notamment, qui était basé à l'ouest du pays, a été un peu déployé vers le nord. Une partie de ces hommes sont maintenant déployés vers le nord.
Oui. Souleymane Baldo, en visant le Burkina, ces groupes djihadistes tels que AGMI, sont-ils en train de prouver quelque part qu'ils ont une capacité de frappe en dehors de leur zone d'action habituelle, qui comprend notamment le Mali, le Niger ou encore l'Algérie? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Mais donc vous pensez que maintenant ils sont en train de prouver cela?
Tout à fait. C'est vraiment le contexte qui est évolué. Oui. Il faut prendre le fait que, disons, l'État islamique, le Daesh, est en train train de confronter un assaut global dans sa zone d'origine, la Syrie, l'Irak, et cherche de nouveaux terrains où s'implanter. Mm-hmm. Le sud de la Libye est maintenant non gouverné. Il y a tellement de milices là-bas qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Et disons, les groupes djihadistes et terroristes radicalistes, ils préfèrent cet environnement des espaces mal gouvernés. Et donc, l'État islamique est en train de chercher des bases dans la zone de Sahel. D'ailleurs, ce groupe d'Ansaruddin, on dit qu'elle est affiliée à Daesh. Ça s'ajoute, bien sûr, à Boko Haram, dans la zone sud, disons, au Nigeria, qui déjà s'est déclaré affilié à l'État islamique. Donc, c'est le Raïda, les groupes scouts qui sont affiliés au Raïda, qui cherchent à s'affirmer régionalement, d'abord pour protéger leurs bases et dire que, n'est-ce pas, nous sommes de Raïda, et donc s'attaquer, comme je l'ai dit, dans le pays fragile de Sahel pour chercher à trouver une implantation territoriale dans cette zone-là. Le Mali est le noyau de cela, mais tous les pays qui sont infectés autour du Mali.
Je pense que nous avons Babacar Ndiaye au téléphone maintenant. Babacar Ndiaye, si vous m'entendez, nous voyons une montée en puissance des groupes djihadistes opérant dans le Sahel. En fait, il n'est pas en ligne avec nous, mais c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. Certains se fusionnent, n'est-ce pas? Alors, évidemment, il y a cette multiplication d'attaques de la part de ces groupes. Voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient dans quelques petits instants.
Vous et nous, c'est votre émission.
Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous.
Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis.
Tout ce qui nous passionne et dont on rapproche.
Racontez-nous vos histoires.
Et nous vous raconterons les vôtres.
Vie africaine.
Vie américaine.
Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun.
Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie.
Vous et nous.
Vous et nous, ensemble.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Nous discutons du dossier terrorisme en Afrique. De nouvelles menaces pèsent donc sur la région ouest africaine. Ces dernières années, les groupes armés opérant dans la bande sahélo-saharienne ne se limitent plus aux zones reculées, mais multiplient les attaques dans les grandes villes. L'éclairage d'Abdourahmane Dia sur cette nouvelle stratégie adoptée par les djihadistes.
Les hôtels, les centres d'attraction et touristiques, nouvelle cible des groupes armés en Afrique de l'Ouest. La première attaque d'envergure a visé le Radisson Blue de Bamako en novembre 2015. Bilan, 20 morts et plusieurs blessés. Avant cela, et toujours dans la capitale malienne, un attentat à la grenade contre le bar-restaurant La Terrasse. 5 personnes tuées et 8 blessées en mars 2015. La même année, une autre attaque contre un hôtel de Sévaré dans le centre du Mali fait 13 morts. Et en juin dernier, un campement à la sortie de Bamako a été pris pour cible, faisant 5 tués. Burkina Faso, l'hôtel Splendide et le café Cappuccino en pleine capitale sont attaqués par un commando de djihadistes. Le bilan est lourd, 30 morts, 71 blessés en janvier 2016. Deux mois plus tard, Grand Bassam, la grande station balnéaire à la sortie d'Abidjan, est à son tour frappée. 19 personnes périssent, 22 autres sont blessées. Une vague d'attentats qui a mis sous pression les autorités dans tous les pays de la région, les poussant à renforcer la sécurité dans les hôtels et autres lieux d'attraction. Mais la dernière attaque à Ouagadougou montre que la partie est loin d'être gagnée.
Abdourahmane Dia, merci bien. Abdou, avec moi sur ce plateau, nous retrouvons nos invités, évidemment. Souleymane Baldeux, expert indépendant de l'ONU sur le Mali. Et nous avons à Washington mon collègue de VOA Afrique, Bagassi Koura. Et notre correspondant, Issa Napon, il est à Ouaga, évidemment. Alors, Souleymane Baldeux, Abdourahmane vient de nous le dire. Donc, nous avons vu Burkina, Côte d'Ivoire, Tchad, Niger, Mali d'ailleurs, où deux attaques meurtrières ont été perpétrées cette semaine même contre la mission de l'ONU dans le pays. Comment ces pays qui font preuve jusqu'ici d'une certaine impuissance face aux dangers terroristes luttent-ils contre ces groupes djihadistes?
Bien sûr, le fait que le groupe djihadiste emploie des moyens qui sont, disons, asymétriques. Ouais. Leur façon d'attaquer la mission de maintien de paix au Mali, ou bien les forces internationales du Burkhan, ou bien le contingent tchadien au sein de MINUSMA, c'est par les tirs de roquettes, de mortiers, c'est par les engins explosifs et les mines mises sur leur route de passage, dans les patrouilles. Et c'est très difficile pour un dispositif de défense traditionnel, comme une force régulière organisée, de faire face à telle, disons, guérilla disproportionnée. Mm-hmm. Et ils ont une façon de disparaître dans le milieu de Sahel. Et c'est pourquoi on entend toujours parler de ce groupe, malgré les moyens très considérables qui sont déployés contre eux. Mm-hmm. La mission du Mali est l'une des plus grandes au monde. Elle contient plus de 12 000 disons, soldats, en addition de l'appui des forces de Burkhan, bien sûr. Et malgré tout cela, la mission doit se concentrer sur la défense des soldats de contingent et les convois de cette grande machine.
Oui.
Et donc, les groupes arrivent à réaliser ce qu'ils veulent parce qu'ils travaillent dans le milieu, ils s'intègrent avec la population, et puis ils sont très déterminés à arriver à leur but.
Oui. Issa Napon, nous l'avons vu, le chef de l'État malien s'est rendu à Ouagadougou pour témoigner sa solidarité au peuple burkinabé. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est l'actuel président du G5 Sahel, est-ce qu'il a parlé de cette force militaire, surtout après ce qui s'est passé évidemment chez vous? Et a-t-il dit par exemple ce que cette force militaire antiterroriste va changer? Les jours des djihadistes sahéliens sont-ils comptés?
Oui, il faut dire qu'il a insisté auprès de son homologue burkinabé Roch Kabore pour dire que plus que jamais ils doivent rendre cette force de G5 Sahel opérationnelle dans les tout prochains jours, parce que là l'heure est comptée, et si l'on n'est pas en garde, des choses pourraient être pires dans les jours à venir.
Oui, le G5 qui regroupe évidemment le Burkina, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, il requiert un budget annuel estimé à environ 495 millions de dollars. C'est énorme, évidemment. Alors pour des observateurs comme l'éditorialiste burkinabé Morin Yamangbe, les moyens manquent cruellement déjà, car tous ces pays sont pauvres. Il pose cette question: comment mettre en place et déployer une force de 5000 hommes sans les moyens nécessaires? Suleiman,
la réponse ne peut pas être que sécuritaire.
Oui.
Alors, on parle des échanges, on parle de la MINUSMA, ce sont des milliers de soldats, en plus que les forces de sécurité nationale. Or, les problèmes qui poussent les jeunes à joindre les groupes, disons, djihadistes, ou bien les trafiquants de drogue, ou les trafiquants en êtres humains, c'est le manque de prospectus pour, disons, gagner sa vie, établir sa famille, avoir une certaine stabilité d'emploi. Et donc les pays du Sahel doivent aussi payer attention à la question de gouvernance interne, à la question de la sécurisation de leur population sur le plan économique et social. Mm-hmm. Or, ils partent toujours de réponse sécuritaire, comme si les soldats vont disons, résoudre ce problème. Mm-hmm. Ils ne le vont pas. Tant qu'il y a un attrait considérable pour les jeunes pour se joindre à ces trafics, disons, transfrontaliers, oui, à ces mouvements extrémistes.
Et d'ailleurs, oui, la solution n'est pas que militaire, d'ailleurs, on va essayer d'aborder ça avant qu'on termine l'émission. Oui. Mais vous savez, il y a une certaine crainte parmi les dirigeants du G5 Sahel. Alors, ils craignent que justement le G5 entraînerait le départ des 4000 hommes de la force française Barkhane qui lutte contre ces groupes sahéliens.
Je ne sais pas si on peut vraiment faire séparer les choses.
Oui.
Disons, le trafic de drogue qui vient d'ailleurs des cartels, disons, d'Amérique latine, qui traverse la zone sahélienne, c'est destiné à l'Europe. Le marché, ce n'est pas le Sahel. Et tous les attentats qu'on a tous les jours aujourd'hui, même à Barcelone, ce sont les mêmes groupes extrémistes et djihadistes qui opèrent et qui cherchent, disons, un pied sur terre dans le Sahel, qui s'attaquent, disons, en France, en Espagne, en Allemagne et partout. Et donc, c'est dans l'intérêt stratégique et de sécurité de l'Europe de s'investir non seulement dans l'effort sécuritaire dans les pays du Sahel, mais aussi dans le développement économique de tous ces pays qui sont parmi les plus pauvres au monde. Et il faut bien donc payer attention à la question de structure et de développement économique.
À Bagassi, y a-t-il ce danger dans votre pays que des jeunes sans emploi, sans argent, deviennent des recrues faciles pour ces groupes?
Oui, Jacques, c'est un risque qui est réel. Hein. La pauvreté et surtout l'ignorance, c'est un vrai risque pour nos pays africains. Surtout au Burkina, le gouvernement, je crois, l'a un peu compris. Il a dégagé ce qu'il appelle un fonds d'urgence pour le Sahel. C'est plusieurs dizaines de milliards qui devront être investis cette année dans cette région sahélienne du pays. Mais la question qu'on se pose, c'est l'efficacité de tels investissements vu tous les rapports sur la corruption dans le pays. On se demande est-ce que ça va suffire à développer les infrastructures dont ces populations ont vraiment besoin, des écoles, des infrastructures socio-économiques pour permettre à ces jeunes d'être retenus et sans être recrutés par les groupes djihadistes.
D'ailleurs, Bagassi, si je peux ajouter ceci, en octobre dernier, on avait vu le démantèlement au Burkina de ce réseau, d'un réseau de recrutement de jeunes destinés à alimenter des filières terroristes dans cette partie de l'Afrique. Voilà, plutôt bonne note, évidemment, pour les services de renseignement dans votre pays. Deux autres commentaires Facebook. Steve Boko à Bengourou, Côte d'Ivoire. Les attaques que nous constatons sont issues de la désunion de nos chefs d'État. Ils ne sont pas solidaires pour combattre ces terroristes. Henri Lodjebo, Tchad, l'Union des États africains est un atout crucial pour lutter contre le terrorisme. Je propose la mise en place de projets agricoles dans chaque État pour donner du travail aux jeunes afin d'éviter le recrutement des jeunes désespérés sans avenir. Et voilà, Suleiman Baldo, le continent dispose-t-il vraiment, je parlais de renseignement tout à l'heure, de bons services de renseignement dans le combat contre le terrorisme d'après vous?
Ce n'est pas le cas, non. Mais il y a des efforts qui se font pour essayer de combler à cette lacune. D'ailleurs, ce n'est pas seulement entre les pays africains, disons de la zone sahélienne, mais aussi avec l'Afrique du Nord, mais c'est entre ces pays, des zones Sahara-Sahel, avec aussi les services de renseignement occidentaux. Parce que le péril, comme je viens de le dire, est vraiment un et unique pour tous les pays, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique du Nord ou bien au-delà en Europe, tous ces groupes, ce sont les mêmes qui cherchent à profiter de la fragilité des pays du Sahel pour essayer de d'asseoir leurs ambitions régionales et internationales, en fait.
Oui. Et ça n'apprend, alors je voudrais revenir chez vous, évidemment, sur votre pays. Quelles sont les réactions des gens Alors quel est le sentiment en ce moment après cette attaque? Quel est le sentiment chez vous dans le pays?
Eh bien, il faut dire que c'est un double sentiment de tristesse et de colère. De tristesse pour ces morts qui s'empilent plus d'une cinquantaine après, au bout de deux ans, semés d'attaques. Il y a aussi donc la colère parce que beaucoup de citoyens que nous avons rencontrés ne peuvent pas comprendre comment des djihadistes peuvent arriver, loger dans des hôtels, dans des habitations et ne pas être découverts. Et ils se disent que non, pourquoi est-ce que l'on ne mettrait pas des caméras de surveillance dans les hôtels, les cinémas, les lieux publics, au lieu de mettre de l'argent là où on n'en a pas besoin. Alors ils sont vraiment en colère pour cela et ils interpellent justement les autorités à regarder cela de très près parce qu'ils pensent que l'on ne fait pas assez pour la sécurité de Burkinabé.
Oui. Et Bagassi, on a vu donc, on a tiré à boulets rouges sur les services de renseignement chez vous. Alors vous pensez que maintenant le pays doit tirer les leçons, le gouvernement ou les autorités concernées doivent tirer les enseignements nécessaires?
Oui, je crois que c'est la logique qui s'impose hein, après une telle grave crise, après une répétition d'événements aussi graves. Je pense que les gens doivent s'asseoir et dire comment est-ce qu'on peut mieux améliorer notre façon de fonctionner. J'imagine pas qu'on puisse repartir avec le même système de renseignement qui est là en place sans le revoir et voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut être plus efficace.
En deux mots, Suleiman, je sais que c'est une grande question, mais que peuvent et doivent encore faire les gouvernements africains pour combattre ce phénomène, pour combattre ce terrorisme qui se répand en Afrique?
Ils doivent s'investir plus dans le développement économique, ils doivent vraiment lutter contre la corruption officielle qui fait que les peu de ressources qui existent sont diverties et ils doivent vraiment coordonner régionalement.
Ce sera le mot de la fin. Et voilà, okay. Merci bien. Point final à ce Washington Forum du jeudi 17 août 2017. Un grand merci à nos invités. Un petit clin d'œil à nos amis de BFA TV, notre télépartenaire au Burkina. Et merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide. À très bientôt. Take care.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jamina, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse.